pour introduire notre invité, j'ai choisi John of Arc de Arcade Fire, un groupe que j'aime beaucoup. Et pourquoi j'ai choisi John of Arc ? Parce qu'on a Mythic Games avec Benoît. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors Mythic Games, il y a un stand où il y a John of Arc notamment, et il y a un stand où il y a Mythic Battle, c'est ça ?
C'est exactement.
Alors moi j'ai une première question, Mythic Battle, ça a été aussi propulsé par Monolith au moment du Kickstarter.
Oui.
Pourquoi ? Il y a un stand Monolith, pourquoi deux stands ?
Il y avait trop de figurines à présenter entre les deux, c'est ça ?
C'est ça. Non, en fait, c'est que Monolith en fait, travaille sur Batman, qui est leur propre projet, et nous, on travaille sur Time of Legends, John of Arc, qui est notre propre projet. Quoi. Mythic Battle, c'était une coédition, et on a nos projets respectifs actuellement.
Et donc, Mythic Games est un éditeur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication. On a cru longtemps que Mythic Battles était un projet Monolith. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui ont communiqué de cette manière-là, qui ont donné cette impression, ou vous qui n'avez peut-être pas communiqué suffisamment. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé au moment de Mythic Battles. Ouais. Pour rappeler qu'il y a un jeu qui existait déjà en amont, 2012 par là.
Oui, c'est ça.
Ouais, et donc, qui a été retravaillé. Quoi.
C'est ça. Donc, il y a eu un premier Mythic Battles dont je suis l'auteur qui a été sorti en 2012.
Il a même connu une extension,
deux extensions. On a décidé avec Leonidas Vesperini, donc mon associé à Mythic Games, de sortir une nouvelle édition du jeu. Donc j'ai fait une nouvelle version du jeu. Et puis Monolith nous avait proposé de coéditer le jeu avec nous et nous apporter leur aide. Donc
c'est eux qui sont venus vers vous ?
Oui.
Il y avait déjà l'idée de refaire le travail, de retravailler le jeu d'une manière ou d'une autre chez Mythic Games, du coup.
Oui, d'abord, en fait, on avait un projet, nous, Mythic Games, de rééditer le jeu. Et puis Monolith nous a proposé de coéditer le jeu et nous apporter leur aide.
Et du coup, quand vous aviez l'idée de rééditer Mythic Battles, il y avait déjà l'idée de financement participatif et de figurines ?
Tout à fait. Donc l'idée, c'était de faire un Kickstarter, mais avec moins de contenu. L'idée, c'était la boîte de base et des stretch goals. Non, avec l'apport de Monolith, on a vu qu'on a été capable de faire beaucoup
Monolith, plus. Monolith qui avait Conan derrière eux, donc l'expérience...
Donc, il venait avec une expertise, voilà.
L'expérience dans surtout du financement participatif et des figurines. Ouais.
C'est tout à fait ça. En fait, travailler avec Monolith, ça a été plus d'exposition pour le jeu. Mm-hmm. Donc Monolith a...
Une communauté aussi, ouais.
Plus une communauté, bien sûr. Monolith a porté le Kickstarter, on a bénéficié de leur expérience. Et ça a été une beaucoup plus forte exposition pour le jeu que ce que ça aurait été sans eux, ça c'est clair.
Sans leur aide, vous l'aurez peut-être pas refait ou peut-être.
Le projet, c'était de le refaire. Mais encore une fois, donc notre projet à la base, c'était de faire une boîte de base et des stretch goals.
Et alors, effectivement, les figurines qui marchent très bien sur Kickstarter, Conan qui avait très bien marché sur Kickstarter, Mythic Battles a bien marché aussi sur Kickstarter, même si un peu moins que Conan, hein, il me semble. Vous étiez arrivé à combien ?
On était arrivé à un peu moins de 2,7 millions.
Un peu moins de 2 millions. Ah oui, 2,7 millions quand même pour
un
Mythic
Battles. Un peu moins de 2,7 millions,
ouais. D'accord, donc ça a quand même très bien marché.
On est assez contents. Hein.
Ouais, j'imagine, ouais. L'idée de rééditer ce jeu, c'est pourquoi ?
La première édition 2012 de Mythic Battles...
C'était édité par vous-même et distribué par Yellow ?
Alors, c'était édité par Play & Win.
Play & Win, ouais.
Et distribué par Yellow.
C'est ça.
Alors, c'est un jeu que j'avais fait à l'époque avec les moyens du bord, en fait. Je dirais que c'était un jeu pré-Kickstarter. En même temps que le jeu est sorti en boutique, il y a eu le premier Kickstarter pour Zombicide.
Ouais, qui a été un carton.
Qui a connu le succès qu'on connaît. Et là, je me suis dit, oh punaise, je suis passé à côté de quelque chose. Parce que donc j'avais dans l'idée de mettre des figurines dans le jeu de base. Ce qu'il y a, c'est que je débutais et puis ça demandait des moyens colossaux de sortir
un jeu de figurines sans passer par le. Ouais. Ouais.
Donc je me suis dit, ah là j'ai loupé un truc. Et donc le premier jeu a eu une vie, donc il y a eu des retours des joueurs.
Il y a eu à peu près combien de soit de ventes, soit de tirages pour Mythic Battles ?
Alors il y a eu un tirage du jeu de base de 5000 exemplaires. Et tout a été vendu.
Okay. Et donc l'idée t'est restée en tête quand même.
Voilà, je me suis dit.
T'avais un sentiment de frustration.
Oui, d'accord. Quand même, oui. Donc ça a été quand même une expérience très positive parce que j'ai beaucoup de retours. Le jeu a quand même eu son succès. Et donc l'idée c'était d'attendre un peu, voir les retours et donc de retravailler, corriger ce qui n'allait pas et de faire une version optimisée, quoi.
D'accord.
Améliorée, quoi. Un reboot.
Et déjà avec l'idée, j'imagine, du coup, du financement participatif derrière.
Tout à fait.
Parce que c'était toujours trop compliqué.
Bien sûr. En fait, le financement participatif est très adapté à ce type de jeu. Quoi.
Ouais. Et alors, le jeu fonctionnait sans figurines.
Oui.
Pourquoi quel est l'apport finalement des figurines par rapport, à part esthétiquement parlant, est-ce que mécaniquement, il y a des enjeux ?
Mécaniquement non, mais c'est beaucoup plus immersif en fait de jouer avec des figurines plutôt que des jetons.
Ouais.
En fait, on voit tout de suite la force de l'unité, et puis c'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de charisme au personnage. Genre, jouer Ulysse, avoir une figurine de Ulysse, c'est tout de suite plus... Ça le fait tout de suite... Ouais. Ça apporte beaucoup plus que d'avoir un...
Le volume de la figurine donne...
Exactement.
Rajoute un point d'immersion sur les capacités, la puissance.
Exactement. Ouais. Puis c'est beaucoup plus facile d'identifier une figurine qu'un jeton, quoi.
Et du coup, à l'époque, le jeton, il y avait écrit la puissance de le...
Non, en fait, il fallait se référer à des cartes.
Ok, donc là, ça n'a pas changé parce
non,
que
ça
c'est
n'a
vrai
pas
que...
changé.
Et donc, gros succès effectivement sur Kickstarter, effectivement, notamment avec la collaboration avec Monolith. Mythic Games, j'ai l'impression que vous aviez été un peu en retrait au niveau de la communication à ce niveau-là. Enfin, c'est le sentiment que moi j'ai eu au moment de la sortie du Kickstarter.
Moi, je dirais pas parce qu'on a géré toute la communication autour du jeu, donc avant le Kickstarter. Donc, Leonidas Vesperini a fait le Mythic Tour.
Il était venu à Strasbourg d'ailleurs chez.
Oui,
on est
venu à Strasbourg. Ouais, ouais. En fait, on a tourné dans toute la France, donc Leonidas, moi.
C'est vrai que moi j'avais le nom Leonidas et Monolith et Mythic Games. Je l'ai quasiment pas entendu en fait au moment où ça tournait, et ce qui est un peu dommage parce que c'est le titre du jeu, quoi.
Oui, moi, c'était pas du tout mon impression, mais...
D'accord, ouais, non, c'est... Ok, et du coup, ça a fonctionné. Est-ce que le fait de faire un reboot avec l'apport de figurines qui, mécaniquement, n'a rien changé, mais est-ce que le fait d'avoir cette opportunité et d'avoir, comme tu avais dit, avec les 5000 boîtes, des retours, etc., t'as changé, du coup, des choses que tu jugeais plus modernes ou plus pertinentes ?
Oui, tout à fait, oui. Déjà, en fait, ça m'est arrivé quand je travaillais sur le jeu, que quand on avait une illustration qu'on voyait et qu'on avait la figurine par après, que je change un peu le gameplay de l'unité. Parce que, mettons, on a un Cerbère qui est très fort, très massif, et il fallait vraiment que son gameplay soit... Enfin, il rende l'impression que le gameplay aille avec l'impression de la figurine. Donc oui, je dirais quand même que le design a eu un impact sur le gameplay, oui.
Et donc ça, c'est...
Genre un colosse massif qui n'aurait pas une célérité immense. Quoi,
exactement. Et que ce colosse massif sera capable de jeter des éléments du décor sur les autres ou des choses comme ça. Quoi.
Que vraiment Est-ce le que le joueur a le droit de les lancer aussi, ces éléments sur les autres.
Après, c'est son jeu. Hein.
Ouais. Le SAV n'intervient pas, là.
Par contre, on ne peut pas le faire avec les protos. Avec les...
Ça marche.
sur le stand.
Et donc, ouais, Kickstarter, ça fonctionne. Le jeu là, il en est où? Le Kickstarter est fini?
Alors, on a quasi tout livré à l'usine. Donc, ouais.
Tout livré à l'usine, tu veux dire les fichiers d'impression, quoi.
Les fichiers d'impression, les figurines, les moules sont faits. On devrait avoir fini de tout livrer dans les jours qui viennent. Donc, on est dans les temps.
Ouais, parce que c'est vrai que Conan est célèbre. On a reçu Conan, j'en reparlerai avec Monolith plus tard, mais on a reçu Conan les derniers éléments. Et encore, il manque les règles. Les règles révisées, il n'y a pas longtemps, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard. Mythic Battles, il était prévu pour quand à la base?
La livraison était prévue pour la fin d'année. Pour l'instant, on est toujours dans les temps.
D'accord.
Alors, Monolith et Mythic Games ont travaillé d'arrache-pied pour
justement éviter de reproduire
pour être dans les temps. Ouais, encore une fois, on a bénéficié du retour d'expérience de Monolith. On devrait être dans les temps. Maintenant,
après, c'est Kickstarter. maintenant, c'est des dynamiques de production en fait qu'on connaît aussi.
Maintenant, on a quelqu'un qui fait du suivi sur place à l'usine, mais on est.
C'est une usine en Chine,
du coup. Voilà, exactement. Okay. On peut. Enfin bon, normalement, tout devrait bien aller, mais il peut très bien y avoir un retard de production, un problème avec le bateau ou la douane.
On connaît dans l'édition traditionnelle
dans le pire
aussi.
Dans le pire des cas, ce sera un décalage peut-être au mois de février, quoi. On est dans les temps.
D'accord. Et sur, est-ce que tout le matériel rentrera dans la boîte de base? Parce que sur Conan, j'ai eu quelques soucis, justement au niveau de l'ergonomie de la boîte, que je ne pouvais pas tout rentrer dedans. Là, vous avez bien prévu que quand je décolle toutes mes punchboards, tout rentre dedans?
Oui.
Ouais.
Oui.
Est-ce qu'il y aura des règles révisées ou là, c'est bon? C'est presque des règles révisées, du coup, du fait de...
Bah, en fait, là, l'avantage, c'est qu'il y a eu un premier jeu.
Ouais.
Et que en fait, donc on a livré les règles lors du Kickstarter. On a eu le retour de la communauté, en fait. Et puis, on a la chance de compter Jack Forton dans l'équipe, donc qui est un game designer émérite. Hein. Donc, il a travaillé sur la troisième édition de Warhammer.
D'accord.
Il a fait la plupart des jeux de Mantic, Dread Ball et Dungeon Saga. Et, voilà. Et c'est un expert dans la rédaction de règles. Et je pense qu'il nous a fait des règles...
Du tonnerre, quoi.
Du tonnerre. Du
D'accord,
tonnerre.
C'est le cas de le dire, ouais.
Je pense que c'est très, très carré.
Ok.
Alors maintenant, s'il y a besoin, on fera des FAQ, mais...
Ouais, ouais.
Bon.
D'accord.
Et puis, il y a eu énormément de parties qui ont été rejouées, beaucoup de personnes qui ont lu les règles. Donc bon, on est confiant sur les règles, la qualité des règles.
Donc Mythic Battles, pour l'instant, bientôt en production, quoi. Oui. Et alors sur John of Arc, justement, là c'est Mythic Games tout seul ?
Exactement.
D'accord, d'où aussi la séparation sûrement du stand avec Monolith, même si tu as dit qu'ils étaient sur Batman, eux, donc...
Oui, mais ça ne nous empêche pas, de, par exemple, d'avoir un stand commun à la Gen Con.
Ok, ouais, donc aux États-Unis en août. C'est ce projet-là, il date de quand ? Est-ce que c'est toi l'auteur ? Est-ce que vous êtes allé chercher ?
Non, je ne suis pas l'auteur. L'auteur, c'est Pascal Bernard.
D'accord.
Qui est aussi un auteur avec beaucoup d'expérience. Il a sorti énormément de jeux. Récemment, La Vallée des Rois. Il a fait aussi le jeu de cartes Heroes of Normandy chez Devil Pigs.
Ouais, d'accord.
Il a fait Montjoie. Enfin, il a fait beaucoup, Montjoie, beaucoup de jeux.
Montjoie, un grand classique. Ouais.
Exactement, un grand classique. C'est un projet sur lequel il travaille depuis très très longtemps, qui a maturé
De son côté, ouais, pendant,
son
un,
côté
certain
pendant
temps.
Un certain temps. Ouais.
Et vous l'avez récupéré, enfin vous l'avez trouvé quand, sur ces camps ?
Alors, on a signé ce jeu en 2015, donc il y a un certain temps, et on a toujours dans l'idée de le sortir tout de suite après Mythic Battles, quoi.
Et vous passerez aussi par un financement participatif,
hein ? On va lancer un Kickstarter, si tout va bien, au mois de septembre, octobre.
Et ouais, donc signature, sourcing, Kickstarter. Comment est-ce que le thème il vient d'où ? Parce que bon, c'est un thème, Jeanne d'Arc est connue de manière internationale. La première Arcade Fire en parle. Bon, ils sont canadiens, donc peut-être que ça joue. Mais ouais, il y a une visée vraiment internationale et de profiter de Mythic Battles pour le coup pour avoir aussi sa communauté.
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, Pascal est un passionné d'histoire et de la période de la guerre de Cent Ans. Mm-hmm. Donc le jeu se passe durant la guerre de Cent Ans, mais le twist, c'est que toutes les croyances de l'époque existent. Donc il y a les sorcières, les démons, les dragons, les anges.
Et là, c'est vraiment dans le jeu.
Et ça, c'est vraiment dans le
D'accord.
jeu.
Donc c'est une vision fantasmée de la guerre
de Cent Ans. C'est une vision fantasmée de la guerre de Cent Ans. Et on va retrouver tous ces éléments dans le jeu, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il a beaucoup joué à la campagne de Age of Empires 2 où on jouait Jeanne d'Arc peut-être aussi à l'époque ?
Ah là, il faudra demander à Pascal, ouais. Ça je ne sais pas.
Et, d'accord, donc ouais, Jeanne d'Arc, c'est vrai que c'est une figure importante de l'histoire, enfin, qui a été finalement un peu construite par l'histoire de France. Est-ce qu'elle sera, elle, présente ?
Bien sûr.
Elle sera importante ?
Oui, ce sera un héros dans la boîte de base. Alors ce ne sera pas forcément une très forte combattante, mais elle pourra inspirer les troupes et faire appel aux forces divines.
Est-ce qu'il y aura une boîte pour le Royaume-Uni sans cette figurine, sans ce personnage ?
Non.
Ou bien si, mais avec un bûcher.
Voilà. Alors, on a eu des surprises avec nos amis anglais. C'est en fait, quand on était chez Beast of War, on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas le moindre de leurs chevaliers qui a participé à la guerre de Cent Ans. Par contre, ils connaissaient tous Jeanne d'Arc.
Ah bah écoute.
C'est pour ça en fait qu'on a pris Jeanne d'Arc comme.
Comme personnage.
Voilà, comme personnage principal du jeu.
Et donc autour de Jeanne d'Arc, ça c'était l'idée de Pascal des débuts donc ?
Oui.
D'accord.
Oui, le projet on l'a toujours appelé entre nous Jeanne d'Arc, quoi.
D'accord. Et comment est-ce que ça s'est développé autour de ça ? Est-ce qu'il y a des adaptations pour s'adapter finalement au marché du Kickstarter ? Il avait déjà l'idée lui de faire des figurines ?
Non, en fait c'était une idée de Léonidas en fait, d'introduire des figurines de petite échelle, donc du 15 mm. Mm-hmm. Pourquoi 15 mm ?
Ça, c'est la galère pour les peindre.
Ben, pas vraiment. Alors ça, c'est souvent quelque chose que disent les gens, mais quand vous demandez aux peintres, ils disent que ça se passe aussi bien que du 32 mm. Hein.
D'accord, ouais, voire du plus grand, parce que les détails sont pas les mêmes, en fait, mais tu as toujours du détail, même sur les grandes figurines, pour certains effets, etc.
Exactement. Alors nous, nos figurines seront très détaillées, parce qu'en fait, généralement, ce genre de figurine est sculpté traditionnellement. Mais nous, en fait, on les fait toutes faire en 3D, en fichier 3D, ce qui fait d'avoir beaucoup de détails. Alors, pourquoi 15 mm ? C'est parce qu'on va avoir beaucoup de décors 3D dans le jeu. Il y aura des maisons en figurines, des arbres, des puits, des églises. On va même avoir des châteaux forts.
Et que dans le jeu sur Kickstarter, tu veux dire ?
Oui.
D'accord, ok.
Alors, le château fort ne sera pas forcément la boîte de base.
Hein, Mais
vous aurez la maison, les églises.
C'est le type de décor qui, normalement, est réservé au jeu de figurines type là c'est vraiment
c'est
chaque élément.
Les gens qui achètent des éléments à côté pour
agrémenter
le champ de bataille.
Là on les aura dans
là,
le jeu.
Là ça serait inclus de base.
De base, oui.
Enfin de base, ça dépend des éléments. Mais
ça dépend des éléments.
Voilà, ok, ouais.
Donc d'avoir beaucoup d'éléments de décor 3D qui vont avoir une importance dans le jeu, genre les personnages pour rentrer dans les maisons, pour fouiller s'ils trouvent des choses, pour scalfeutrer. Ils pourront, aller dans une église et découvrir une crypte. Et par après prier dans cette crypte, si on est du côté satanique, invoquer une sorcière.
D'accord, voilà. Ouais, donc il y a vraiment une relation entre vraiment le décor et les figurines.
Exactement.
Avant, ça se passait comment du coup ? Quand lui a développé, il avait des jetons
voilà,
et des trucs en aplats.
Ouais, exactement.
Ok.
Ouais.
Et ça, c'est l'effet Kickstarter qui rend ça possible.
Exactement. Et en fait, on va vraiment pousser ça loin. Il y aura beaucoup de personnages non joueurs dans le jeu. Genre, on pourra aller voir un maréchal ferrant et lui donner de l'or ou lui demander de rendre les chevaux plus rapides, un forgeron de forger une arme, un apothicaire de faire des potions, des moines qui vont nous confier une quête annexe ou prier, enfin pour nous, et voilà, des choses comme ça, quoi.
Ouais, donc il y a plein d'éléments en fait qui semblent venir du RPG en jeu vidéo presque.
Exactement. En fait, l'idée, c'est de vraiment incorporer dans le jeu des éléments de RPG. D'ailleurs, les héros devraient être plus ou moins charismatiques et donc avoir plus ou moins de chance dans leur interaction avec les PNJ, d'avoir des effets favorables ou pas.
Et il y aura un mode, ça sera des scénarios indépendants ou un mode campagne avec
alors,
de l'XP qu'on acquiert.
On aura des campagnes. Mais dans chaque scénario individuel, il sera possible de faire passer des niveaux à ses héros, d'aller même jusqu'au niveau 5. Et dans l'état actuel du jeu, en fait, à partir du niveau 3, le héros pourra choisir une orientation, bien ou mauvaise, et avoir accès à des cartes de mythes, bien ou mauvaises, selon son orientation. Sachant que le mal vous apportera des défauts. Le personnage pourra devenir sadique, cupide, enfin voilà, il sera affligé de tare.
Alors ça a l'air super intéressant d'un point de vue narration dans le jeu. Comment on fait pour... alors ce sera un jeu costaud j'imagine de toute façon, mais justement pour éviter que ce soit trop lourd et trop laborieux au niveau du game design.
Pour pas toujours avoir le nez dans les règles.
Ouais,
entre
ça, il faut que je fasse ça et puis ah, ben, il gagne un niveau, il faut que je rajoute ça, etc. Comment vous avez fait?
En fait, le système est très très léger. Il est basé sur des cubes d'activation. Il y a plusieurs cubes, types de cubes d'activation. Donc vous avez d'abord les cubes rouges qui vous permettent d'activer toutes les unités d'une zone. Vous avez des cubes bleus qui permettent de jouer durant le tour de l'adversaire, des verts qui permettent de faire des charges, les noirs qui permettent des cubes de mythe qui permettent de faire payer vos cartes de mythe. C'est très très simple. Hein.
Et donc si je vais voir l'apothicaire, que je veux lui acheter par exemple une potion, admettons, ou un soin, ça se passera comment? Je vais me déplacer vers lui, je vais.
Vous allez dans sa zone, mettons, vous allez l'activer, donc vous lui demandez de faire la potion. Dans le scénario, vous aurez une carte dédiée vous disant voilà, payez
c'est temps. Ça, il y aura un espèce de deck de cartes pour les trucs qu'on peut.
Dédié au scénario, vous expliquant que pour ce scénario-là, vous
ça
pouvez faire
temps.
Ça.
Ok, voilà. Tout ça est géré après par les cubes au niveau de l'achat
Exactement.
Ok.
Exactement. D'accord. Alors au niveau de l'achat, bah, il serait aussi possible d'avoir de l'or dans le jeu. De capturer un héros adverse, de demander une rançon et pour garder de l'or et le rendre donc compte de l'or à l'adversaire.
Là, Pascal, il est à quel point est-ce qu'il a impliqué dans tout ça, dans le développement? Parce qu'il a fait le système de jeu, j'imagine.
Oui, et c'est lui qui fait tout le développement.
Et au niveau justement matériel et des questions de matériel, à quel point est-ce que justement on implique l'auteur quand c'est comme ça qu'on va passer par Kickstarter, qu'on a une connaissance de Kickstarter que l'auteur n'a pas forcément parce qu'il a ses connaissances de création?
En fait, on lui demande idéalement pour lui qu'est-ce qu'il devrait avoir dans la boîte de base. Et nous, après, en tant qu'éditeur, on lui dit écoute, ça, c'est pas possible. Donc, on va plutôt le mettre en stretch goal ou dans une extension.
Vous avez déjà un plan comme ça? Alors, tu as dit octobre-novembre, vous avez déjà un plan de ça sera la boîte de base. Je pense qu'on partira sur une boîte de base à tarif, disons, cher pour le commerce traditionnel, mais qui oui. Qui a tendance à se généraliser pour le Kickstarter, c'est-à-dire autour de 100-150 euros, 150 dollars.
En fait, on hésite entre une boîte à 100 ou 120 dollars.
D'accord, avec un matériel différent du coup, j'imagine.
Bien sûr.
Et déjà, à ce moment-là, vous commencez déjà à réfléchir à ça, ça sera un stretch goal, ça sera dans une extension éventuelle, ça ce sera Kickstarter exclusive et tout?
Tout à fait, oui.
Ouais, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de préparation, quoi.
Oui. Ouais. Après, il faut savoir s'adapter au flux de la campagne et aux demandes des backers en cours de campagne.
Tout en restant fidèle à soi-même.
Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des cartouches.
Ouais. Et jusqu'où vous allez aller dans les demandes des backers? Parce que souvent des éditeurs nous disent que...
Est-ce que vous allez faire comme dans Pillars of Eternity où les gens vont pouvoir écrire leurs dialogues, qu'on les verra dans le jeu?
On est ouvert après.
Ouais. Ouais, après, il faut réussir à garder la main sur son truc.
Après, voilà, il faut garder la main et surtout livrer le plus rapidement possible. Quoi. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se limiter à un nombre de scénarios. On va faire beaucoup moins de scénarios que dans Mythic Battles, mais ils auront tous une très forte rejouabilité. Là, en fait, j'ai dû faire une quinzaine de parties du scénario de Jeanne d'Arc qu'on présente sur le festival. Et pas une partie s'est passée deux fois de la même façon.
D'accord, ouais. Et donc ça, ouais, c'est prévu pour octobre-novembre. Et là, donc, vous commencez à présenter ça sur festival. C'est, vous commencez ou ça fait déjà quelques temps?
Alors, on a présenté le jeu au Festival international des jeux de Cannes.
Ouais.
Et puis, on a entretenu doucement la communication parce que là, notre priorité, c'est d'abord de finaliser Mythic Battles. on en voit le bout, et à partir de maintenant, enfin dès que ce sera fait, on va se consacrer à 100% sur Jeanne d'Arc et sa com, quoi.
D'accord, ce sera une version internationale ou il y aura une version française Jeanne d'Arc ?
Il y aura une version française de Jeanne d'Arc, évidemment. Ouais. On ne pouvait pas ne pas faire une version française.
Et alors, c'est il y aura même... des caractéristiques en plus
française. Ouais. Et c'est quand même des jeux relativement costauds. On a dit, là, un scénario, c'est à peu près combien de temps ?
Alors, un scénario peut durer entre 20 minutes. Ah ouais. On a des scénarios très rapides. Okay. Là, le scénario qu'on fait sur le salon, il dure une demi-heure.
Ouais, d'accord. Ouais.
Mais maintenant, on peut avoir des parties beaucoup plus lourdes.
Ouais, parce que alors... ma question, ouais, c'était justement sur festival. Justement, on a les gros jeux. C'est toujours plus difficile. On en fait moins tourner. C'est plus long à expliquer. Là, du coup, ça va quand même relativement vite.
Oui, ouais. Oui, on a des les parties s'enchaînent assez rapidement. Maintenant, le jeu n'est pas si costaud que ça. Hein. C'est beaucoup plus léger que Mythic Battles. C'est vraiment, je dirais, un jeu plus tout public.
D'accord.
Qui a la particularité de plaire aussi beaucoup aux joueuses.
Ouais, mais
plus que Mythic Battles. Hein.
D'accord, mais parce que tout public, du coup, est-ce que le tout public, le grand public, il est prêt à mettre... déjà, est-ce qu'il va sur Kickstarter ? Et est-ce qu'il est prêt à mettre un tel prix pour un jeu finalement grand public, à ton avis ?
Parce que ça dépend ce qu'on recherche. Si on veut un jeu où on va s'investir vraiment, qu'on aime le thème et qu'un jeu riche en termes de finalisation et de contenu...
Le public Kickstarter est quand même un public core gamer, quoi. Enfin, en moyenne, quoi, sauf exception.
Oui, mais on voit de plus en plus, en fait, genre des familles qui sont sur Kickstarter. Ça se démocratise... c'est vrai qu'il y a plus de core gamers sur Kickstarter, mais il y a de plus en plus de familles.
Et alors, venir à un festival comme ça, présenter un jeu qui va être sur Kickstarter, quel est l'intérêt ? C'est toujours faire cette communauté ? Est-ce que vous, à Mythic Games, vous avez l'impression d'avoir fait une communauté qui est en partie peut-être celle de Monolith aussi, mais qui vous appartient entre guillemets quelque part ?
Bah, c'est ce qu'on espère. Oui, on compte là-dessus. C'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on fait des updates toutes les semaines et des lives toutes les semaines pour Mythic Battles.
Oui, d'accord, ouais, sur Kickstarter du coup, enfin sur.
Voilà,
sur
donc on espère Facebook. Fédérer comme ça une communauté et on espérait que la communauté va
suivre
sur les nouveaux projets. Ouais.
Et là, la réception, est, du coup, c'est quel public qui vient jouer ? C'est des gens qui ont entendu parler du projet déjà et qui se disent ah, tu veux voir la suite de Mythic Battles ou...
Oui, alors il y a beaucoup de gens qui viennent voir Mythic Battles, donc des backers de Mythic Battles qui viennent voir les figurines et faire une petite partie. Et puis, je pense que nos prototypes de Jeanne d'Arc, en fait, attrapent assez l'œil. Donc, ouais, avec les petites figurines très détaillées, les maisons, les armes en figurines et tout ça. Et bien souvent, ils essayent le jeu et ils apprécient. Les retours sont très, très positifs. On est très contents.
Est-ce que, justement, le fait du matériel, ça attire les gamins, les petits gamins qui n'ont pas l'âge forcément pour jouer.
Qui vont renverser.
Qui disent, je joue à ça.
Toucher les figurines.
Comment tu fais pour gérer ces enfants qui ont
envie de jouer ? Oui, tout à fait. Alors, moi, ça me fait assez peur parce que les figurines, actuellement, sont en résine et sont très fragiles.
Alors, tu leur tapes dessus.
Il faut pas...
Non.
En fait, les tables, elles sont à 1,50 m de haut. C'est ça.
Qu'il ne faut pas tordre les lances et tout ça parce que ça casse. Mais bon, on leur explique gentiment. Et puis, souvent, c'est le papa et la maman qui jouent. Et voilà, quoi.
Alors, lui, maman, tu me le prendras sur Kickstarter.
Et alors, surtout que le jeu est, on va dire, à partir de 12-14 ans, donc pour les enfants, c'est quand même pas...
Ouais. Et au niveau, pour finir, en tant qu'auteur, toi, tu as des projets chez Mythic Games ou ailleurs ?
Si projet il y a, ce sera forcément avec Mythic Games. On a quand même annoncé une suite de Mythic Battles, donc bon...
D'accord.
Avec donc le Panthéon nordique.
Ok, et Mythic Games est destiné à passer par Kickstarter ou vous pourrez aussi voir des choses faites par la voie traditionnelle ?
Alors tout d'abord s'appuyer grandement sur Kickstarter, mais il n'est pas du tout impossible qu'on sorte des produits dans le circuit traditionnel ou même que certains de nos produits qu'on finance via Kickstarter se retrouvent après en boutique.
En boutique, d'accord, ok.
Voilà. Très bien.
Parce que là, le jeu Jeanne d'Arc sera en boutique quoi qu'il arrive ?
Ça reste à déterminer.
Et peut-être pas tout, quoi.
Voilà. Disons qu'on pense peut-être faire une version allégée de Jeanne d'Arc, parce qu'on pense qu'une boîte à 100 € en boutique, c'est difficile.
Ah, sauf sur l'Empire se vend. Bon, il y a Star Wars, mais...
Voilà, c'est Star Wars, mais on n'a pas la licence Star Wars. Maintenant, on peut...
D'ailleurs, il n'y a pas de licence sur les personnages historiques.
Non. Non. Mais du coup, c'est une licence qu'on développe nous-mêmes.
D'accord.
En fait, c'est avec Time of Legends, l'idée, en fait, c'est de prendre une période historique donc de la saupoudrer de fantastique, de choisir un héros, l'un des héros les plus connus de l'époque, et de reproduire la même chose avec différentes périodes historiques, parce qu'on pourrait très bien faire
un truc sur les croisades par exemple avec Richard Cœur de Lion.
Exactement. En fait, l'idée c'est qu'on pourrait utiliser Jeanne d'Arc avec la suite de Time of Legends.
Et donc là, le Kickstarter qui viendra, c'est vraiment Jeanne d'Arc avec éventuellement, comme souvent dans ces Kickstarter, éventuellement des extensions, des add-ons et compagnie. Par contre, ce ne sera pas sur ce Kickstarter ce dont tu parles, d'autres univers.
Exactement.
Ce sera éventuellement d'autres projets.
Là, on aura différents add-ons. Notamment, alors, si on a dans le jeu des petites figurines de 15 mm, on aura des très 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 grosses.
Les dragons dont tu parlais, par exemple.
C'est possible, c'est D'accord. tout à fait possible. Il se pourrait même qu'ils seraient très très gros et très très beaux. Mais je n'ai rien dit. Hein.
Est-ce que vous prévoyez
ça sera coupé
au niveau du Kickstarter, un Kickstarter sur Gandhi avec Gandhi en héros et un jeu où le but est de répandre le pacifisme.
De faire la paix, voilà.
Ben, je ne sais pas si ludiquement ça.
Après Mythic Battles, ça serait.
c'est la suite logique de Mythic Battles.
Ouais, je pense. Je ne suis pas sûr que là notre communauté nous suivra. En fait.
Ce sera une nouvelle communauté, les fans de Gandhi. Vous aurez trois backers. Bon non.
Mais c'est pas dit qu'on fasse que des jeux où il s'agit de ça. Enfin, par exemple, dans Jeanne d'Arc, il n'y a pas que de l'affrontement. Hein. Ça
ouais.
peut.
Ouais, bah, tout
pas,
ce que tu
on
disais.
On peut avoir des scénarios de pure enquête. Hein. C'est
D'accord.
tout à fait possible. Ce qui dans Mythic Battle, c'est plus difficile déjà.
Vous allez ouvrir aussi une ouverture à des scénarios extérieurs, comme ça peut exister sur ce genre de jeu.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, l'idée, c'est que en fait, la communauté s'empare du jeu. Et que c'est pas impossible si on a les moyens qu'on mette en place un outil d'éditeur de scénario et que la communauté puisse éditer ses propres scénarios.
Oui. D'accord. Vous avez pris une table à l'intérieur, pourquoi ? Je pose la question à tout le monde.
Parce qu'on se disait que s'il pleuvait, ça pourrait être problématique.
Ça va,
tu faisais pas confiance au climat strasbourgeois.
Je crois que t'es du coin en plus, non ?
Oui, en fait, j'ai vécu quelques années à Strasbourg. Mais bon, venant du Luxembourg, aujourd'hui, on se méfie du temps. Ouais.
Ok, ça marche. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le festival, sur Jeanne d'Arc, sur Mythic Battles ou autre.
Non, juste pour remercier pour l'opportunité.
Merci d'être venu chez nous.
Merci. Hein.
Ciao, salut.
Merci, au revoir.